VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Conakry, 17h à Bangui, bienvenue à notre journal. Au Mali, le Parlement se penche demain à Bamako sur un projet de nouveau code électoral qui renforce les conditions exigées aux postulants qui font acte de candidature à la présidence du pays. Modibo Dembélé a demandé au professeur Amadou Thiéolé Diarra, avocat au barreau malien, si ce plan ne vise pas à limiter le nombre des candidats à la présidence.
Politiquement, oui, pour la simple raison que, en fait, si nous partons du principe que la classe politique se répartit en termes de segments, c'est-à-dire que, évidemment, il y a les représentants des grandes classes, il y a les représentants, en fait, des classes moyennes, et les représentants, en fait, permettez-moi l'expression, des classes populaires. Eh bien, les représentants des classes populaires n'ont forcément pas le moyen, n'ont forcément pas 35 millions, et puis ils n'ont peut-être pas la possibilité d'avoir la caution des 15 députés. Et pour autant, ils ne sont pas moins représentatifs, en fait, que les grandes parties. Parce que la plupart, en fait, si vous voulez, des candidats qui ne se font pas élire, eh bien, la plupart, effectivement, représentent des voix qui ne s'expriment pas, fondamentalement. Donc, une législation du genre, eh bien, qui plafonne la caution à 35 millions et puis assujettir la participation aux élections présidentielles à la signature de 15 députés et de 15 conseillers municipaux ou de collectivités, vous voyez ce que ça fait. C'est une législation qui exclut en fait des segments importants de la course, parce que tout le monde ne se reconnaît pas dans les grandes parties. Ce qui explique justement la création de beaucoup de partis.
Le professeur Amadou Thiéolé Diarra, avocat au barreau malien à Bamako. Lutte contre le terrorisme au Niger, les États-Unis d'Amérique appuient les efforts des autorités nigériennes pour contrôler les frontières de leur pays. Des instructeurs de l'armée américaine ont formé récemment 250 policiers qui vont constituer une unité mobile qui sera déployée sur les frontières, notamment celles que le Niger partage avec le Nigeria. Le contingent a été présenté ce lundi matin à Niamey en présence de notre correspondant sur place, Abdulrazak Idrissa.
La compagnie mobile de contrôle des frontières va être basée à Meneseroua dans la région de Diffa, en proie aux incursions de la secte Boko Haram. Les 250 policiers qui la composent ont été formés 2 mois durant en commandement, transmission, conduite auto, gestion du matériel, secours de premiers soins par des instructeurs de l'armée américaine. Enis Reddick est l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Niger.
Le Niger a une réputation de partenaires sérieux, fermement engagés à cette lutte pour la civilisation et le progrès. C'est un privilège pour les États-Unis de travailler ensemble à travers des objectifs sécuritaires communs avec un partenaire aussi dévoué.
Cette nouvelle unité va donc contribuer davantage à la sécurisation du pays et s'inscrit dans la vision des autorités en place, a assuré le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Ider Adamou.
Cette compagnie de plus de 250 personnes, elle est bien formée, bien équipée, et nous pensons qu'elle va amener un plus dans le travail qui est déjà fait sur le terrain. Plus l'aspect sécuritaire est étudié par le gouvernement, plus il prend de nouvelles mesures pour renforcer la sécurité. Donc c'est parmi les nouvelles mesures que cette intention a été initiée et nous venons de voir la concrétisation aujourd'hui.
La compagnie mobile de contrôle des frontières est financée par le Global Security Contingency Fund des États-Unis d'Amérique pour des objectifs cités ici par le directeur général de la police nigérienne, le commissaire Souley Boubacar.
De renforcer les capacités de la police nationale en matière de contrôle et de sécurisation des frontières par la mise en place d'unités opérationnelles, de renforcer la sécurité des populations frontalières, de renforcer les capacités opérationnelles des services de la police nationale impliqués dans la lutte contre les réseaux criminels organisés de part et d'autre de la frontière, améliorer la gestion policière des frontières et enfin améliorer la coordination et la coopération transnationale.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Gabon, reprise des activités dans un calme précaire après plusieurs jours de paralysie totale due aux violences accompagnées de pillages qui avaient suivi l'annonce contestée de la réélection du chef de l'État Ali Bongo Ondimba à la présidentielle du 27 août. L'on continue de s'interroger toutefois sur le sort des personnes arrêtées après les émeutes de la semaine dernière. Plus de détails avec Jean Rovis Dabani, notre correspondant à Libreville.
Près de 1500 personnes ont été arrêtées et selon le commandant-chef de la police nationale, il s'agit des pillards et des casseurs. C'est ce qui inquiète les avocats et les membres de la société civile. La situation des opposants reste floue puisque les 26 personnes retenues dans le QG de l'opposant Jean-Ping à Libreville ont été libérées après les négociations menées par le diplomate tunisien Abdoulaye Batili, qui est le patron du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Et on se souvient que dans son discours, le premier du genre depuis la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle, Jean-Ping a appelé ses partisans au calme, réclamant à nouveau le recomptage de voix bureau par bureau, ce que ne prévoit pas la loi. Et samedi soir, le premier ministre a appelé les travailleurs à regagner leur bureau lundi matin. Mais à Libreville, le dispositif policier a été allégé dans les quartiers qui ont connu des violences, à l'exception du palais présidentiel, dont les accès sont restés bloqués par des blindés de la garde républicaine.
Maintenant, que pense la population de la victoire d'Ali Bongo et des violences qui ont suivi? Écoutons ces réactions de Gabonais qui, pour des raisons évidentes, ont voulu garder l'anonymat.
La victoire a été volée parce que le peuple gabonais en a marre. Nous sommes fatigués de la famille Bongo. 50 ans au pouvoir, c'est trop. Le Gabon pourri, le Gabon coupé dans la pauvreté. Ali ne fait que s'enrichir avec ses amis. Nous ne voulons plus de ça.
Une grossière erreur de l'opposition et une grossière mascarade du pouvoir en place. Et après, on sait qu'il n'y aura pas de recomptage. On est parti pour 7 ans de souffrance encore. Moi, j'ai le sentiment que ça va faire mal. Ça va vraiment faire mal parce qu'on est en face des gens qui sont rancuniers, des gens qui sont méprisants, des gens qui sont orgueilleux.
Il y a eu révolte tout simplement parce que les gens se sont rendus compte que la victoire du président Ping a été volée. Mais comme ça se passe en Afrique, tout ce que nous pouvons demander c'est d'arrêter de tuer le peuple. Parce que c'est ce peuple-là qu'il va commander demain. Donc il ne faut pas qu'on puisse tuer ce même peuple et se retrouver pour qu'il y ait la paix. Nous voulons la paix.
Si les unes ont parlé, les unes ont décidé que c'est Ali Bongo qui a gagné, car cela nous tienne, même si évidemment on a parlé de fraude. Et le verdict est tombé, alors nous ne pensons plus aux élections. Nous devons passer à demain, que nous devons reprendre le boulot et que la vie continue.
Tout à fait, on est vraiment stupéfait et très sensible à la victoire. En tout cas, quand on ne sait pas ce qui s'est passé, on sait que la victoire ça a été donnée par la Sénat, c'est la voix du peuple. Et la voix du peuple, c'est ce qu'on doit respecter, c'est tout. Mais en tout cas, nous on est dans une catégorie, nous ne sommes pas inquiets, ça va, ça marche.
Quelques réactions de Gabonais à la victoire d'Ali Bongo à la présidentielle et les violences qui ont suivi. Présidentielle 2016 aux États-Unis maintenant, le candidat républicain Donald Trump a visité au cours du week-end une église de Détroit dans le Michigan où il a réitéré son appel en direction des électeurs noirs. Le point avec Timothée Donongmaï.
Face aux accusations selon lesquelles Donald Trump exhorte les noirs à voter pour lui, alors qu'il s'adresse surtout à des foules composées en majorité de blancs, Trump a assisté à un service religieux dans une église de Détroit, ville à 83% noire. C'est la première visite qu'il effectue dans une église africaine-américaine, a tenu à souligner l'évêque Wayne Jackson, qui a présenté le candidat républicain à ses ouailles. Pour sa part, Donald Trump a assuré les fidèles être venu les écouter et aussi présenter son plan économique, qui, a-t-il dit, sera bon pour Détroit. Il a affirmé que la nation a besoin d'un agenda des droits civils pour notre époque. Alors que le candidat républicain s'exprimait dans cette église de Détroit, des manifestants s'étaient mobilisés à l'extérieur pour dénoncer sa visite. Il représente la politique de la peur et de la haine, et les minorités en tout genre ont tout à perdre en misant sur une telle personne, a déclaré le pasteur Lawrence Glass, une des personnes critiquant Donald Trump.
Fin du sommet du G20 à Hangzhou, dans l'est de la Chine. Dans le communiqué final de la réunion, ce lundi, les dirigeants des plus grandes économies développées et émergentes du monde appellent à recourir davantage aux dépenses publiques et pas seulement aux assouplissements monétaires pour relancer une économie mondiale en berne. Ils exhortent aussi à doper l'innovation pour en faire un moteur de croissance. Les participants à la réunion se sont accordés pour s'opposer au protectionnisme, a également déclaré le président chinois Xi Jinping. Nous sommes tous tombés d'accord pour soutenir le système d'échanges commerciaux multilatéral, a souligné le leader chinois. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.